France Inter, le 18-20.
Est-ce qu'on va finir par trancher ? Est-ce qu'on va finir par savoir trancher sur le problème des Français encore en Syrie ou en Irak ? Les enfants, surtout, encore là-bas. Côté politique, on n'en prend pas le chemin. La justice, elle condamne. Nous sommes avec Marie Dauzé qui défend des familles et qui raconte dans un livre que nos peurs sont les victoires pour Daesh. Le bruit du monde est au Mexique ce soir. Parmi ceux qui cherchent à rejoindre la frontière américaine, il y a de plus en plus d'Africains, figurez-vous, ou d'Haïtiens. Imaginez leur parcours qui traverse le globe.
Un jour dans le monde.
Bonsoir Marie Dauzé.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, vous défendez notamment des femmes qui ont passé du temps en Syrie, des familles qui cherchent à faire rapatrier leurs enfants. Vous défendez aussi de jeunes adultes qui sont partis lorsqu'ils étaient mineurs, des hommes ou des femmes, combattants ou pas, qui font l'objet de moult débats en France, qui sont aussi un vrai casse-tête international. Votre livre s'appelle « Les victoires de Daesh », publié chez Plon. Il nous interroge collectivement sur la manière dont la justice s'empare de ces affaires de terrorisme, la manière dont elle s'en est emparée, surtout au fil du temps et au fil, malheureusement en France, des attentats qui ont secoué le pays, pas seulement la France d'ailleurs. Vous y décrivez une justice, je vous cite, qui tâtonne d'abord avant de fermer la porte. C'est aussi un véritable réquisitoire. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice s'est perdue au fond dans ces affaires ?
J'ai eu le sentiment que la justice se perdait, oui, mais je pense que nous sommes dans un état de droit. Et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que j'ai l'espoir qu'on redevienne, ou en tout cas qu'on retrouve une justice qui individualise la peine. Parce que finalement, c'est contre-productif. C'est contre-productif de considérer que chaque citoyen parti 3 semaines en 2013, 2 semaines en 2013, qui très vite non seulement comprend l'erreur qui est la sienne, mais aussi le mensonge qu'on lui a servi via les réseaux sociaux, etc., via la propagande de Daesh, de le considérer comme un ennemi pour toujours. C'est contre-productif. Et je crois, j'espère en tout cas, que petit à petit, la justice antiterroriste va comprendre que pour être efficace, il faut qu'elle persiste à individualiser les peines.
Alors, le cas que vous citiez, c'est celui de Rachid, qui est dans votre livre, qui a passé 3 semaines en Syrie, qui est rentré après. On est à ce moment-là en 2013, donc on est vraiment dans le début des départs. On est à un moment aussi où on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer là, en ce moment, y compris avec ces jeunes gens. Au bout de 3 semaines, il rentre, parce qu'il a été horrifié de ce qu'il a vu. Il reprend sa vie telle qu'elle est. C'est 2 ans et demi après seulement que la justice le rattrape. C'est surtout là qu'il est le choc quand on vous lit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et demi, en fait ?
Mais il a vécu comme vous et moi. C'est-à-dire que les services de police n'ont absolument rien constaté, les services de renseignement non plus, que quand on a su 2 ans et demi, presque 3 ans après, qu'il était parti en Syrie sur un très court séjour, on a ouvert une enquête préliminaire. Et on l'a placé sur écoute et on l'a surveillé. Et on ne s'est rendu compte de rien. On s'est surtout rendu compte, en réalité, que cet homme n'avait absolument rien de radicalisé, entre guillemets. Et lorsqu'on l'interpelle, on découvre chez lui des tracts qu'il distribuait pour dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo. Et donc, on avait évidemment la preuve que cet homme avait eu parfaitement conscience du caractère mortifère de l'idéologie de Daesh et qu'il ne voulait plus en entendre parler, au contraire qu'il l'a combattu. Et pour autant, la justice a voulu se rattraper et l'a traité comme un ennemi.
Et il a fait 5 ans de prison, il a même été dans un quartier spécialisé. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut faire avec les Rachides ? Alors, l'important c'est de dire qu'il y a des Rachides, en fait. Effectivement, c'est bien tout l'objet de votre livre. D'ailleurs, il y a des profils qui sont différents. Derrière, il y a une histoire, parfois désastreuse, parfois qui mérite des années de prison et parfois c'est évidemment plus subtil. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un Rachid, un profil de ce genre-là ?
En fait, il faut évidemment lui faire signifier que ce qu'il a commis est grave, mais il ne faut pas lui asséner la place de l'ennemi. Et la difficulté, mais j'entends les magistrats qui ont peur de juger. Attendez, moi je suis avocat, je ne suis pas là pour donner des leçons. Ça doit être extrêmement compliqué quand on est magistrat de se dire, mais est-ce qu'il n'est pas en train de m'instrumentaliser ? Est-ce qu'on n'est pas en pleine taquilla, vous savez,
bien
l'art
sûr.
De la dissimulation. Ouais. Donc moi je sais des magistrats qui ont fait confiance et puis qui ont été trahis, ou en tout cas...
On dit même que le repentir n'existe pas.
Exactement.
En tout cas, qu'on ne peut jamais déceler le repentir chez un djihadiste.
Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. La politique de déradicalisation n'est pas une science exacte. Et si on décide de ne plus prendre le risque de juger, alors on est exclusivement dans la neutralisation judiciaire et c'est là qu'on fabrique de la défiance envers de l'institution et aussi une forme de terrorisme. Ce que je veux dire, c'est que tous ces gens comme Rachid ne sont pas des personnes qui ont adhéré à l'idéologie de Daesh, c'est pas vrai. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, et notamment je parle des mineurs aussi, hein, des adolescents, des gamins qui sont partis à 15-16 ans, qui sont partis parce qu'ils étaient soit dans le désespoir, soit dans une cassure à l'intérieur de leur vie privée, et qu'on oublie que pour eux, Daesh a été aussi une secte. Daesh a su les cueillir via Internet parce que elle a une culture de l'emprise ou en tout cas une culture sectaire qui a favorisé ses départs. Donc chaque parcours est un individu, chaque individu doit être pris en considération dans ses failles, dans sa dangerosité aussi, mais surtout dans sa capacité à être réinséré, sinon on ne va pas s'en sortir.
Est-ce qu'il y en a beaucoup, selon vous, des rachides? Est-ce qu'il y a au fond une majorité de rachides? Il va y avoir une multitude de procès là, il y a l'énorme procès qui arrive évidemment, celui du 13 novembre. On juge, j'allais dire à tour de bras, la formule est mauvaise, mais on juge énormément en ce moment des cas comme celui-là et comme d'autres. Est-ce qu'il y a beaucoup de rachides selon vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a même une majorité de rachides pour 5, 6, 10, j'en sais rien, qui sont ultra dangereux?
Vous savez, je ne sais pas si on a une majorité, mais il y en a beaucoup, assurément. D'abord, ceux qui nous choisissent, nous, avocats, sont évidemment des personnes qui pensent que quelqu'un d'autre qu'Allah peut les sauver. Ceux qui ne prennent pas d'avocat et qu'on ne connaît pas, c'est tout simplement parce que, pour eux, il n'y a pas besoin d'être défendu dans un système qu'ils renient. Là, on n'est pas face à des profils comme cela. On est face à des gens qui travaillent, qui sont évalués par des psychologues, par des psychiatres, qui racontent une histoire et qui racontent aussi l'histoire, parfois, d'une radicalisation ou d'une cassure. Mais oui, je pense qu'il y en a énormément. Et puis n'oublions pas, et c'est important, que ces personnes, et je reviens à ce que vous disiez sur effectivement les rapatriements, ces personnes sont nées en France. Elles ont grandi dans nos écoles de la République. Elles ont grandi dans des familles françaises. Et il faut que nous comprenions ce qui nous est arrivé. Parce que c'est arrivé à eux, donc c'est arrivé à nous. Et tout ça, c'est important. La justice a vraiment un rôle à jouer sur tout cela.
Mais justement, est-ce que c'est réellement la justice qui tergiverse ou est-ce que c'est la politique qui tergiverse dans cette histoire-là? Parce qu'en les lisant, quand même, il y a beaucoup de magistrats qui disent des choses qui sont similaires à ce que vous dites là.
Bien sûr. Et c'est pour ça que, évidemment, mon rôle, c'est de pointer ce qui ne va pas. Et dans la justice antiterroriste que je décris celle qui m'a le plus choquée, celle que j'espère voir disparaître un moment ou un autre. Mais il y a des magistrats antiterroristes avec lesquels je parle. Et je parle de l'individuation et de chaque personne que je défends. Et je rappelle que M. Depasse, coordonnateur des magistrats antiterroristes,
c'est lui que je pense notamment, c'est lui qui l'a dit,
a expliqué qu'il était de son devoir de dire qu'il était nécessaire de rapatrier ces personnes, notamment pour des raisons sécuritaires. Mais en tout cas, ce n'est pas une fin de non-recevoir sur la confiance que je peux avoir en notre système. C'est juste, attention, ne tombons pas dans la caricature. Et encore une fois, je cite souvent Mark Segman, qui est quand même quelqu'un américain, ex-agent de la CIA, psychiatre, qui a expertisé nombre de terroristes, dit le seul moyen judiciaire de combattre le terrorisme, c'est de leur faire bénéficier d'une procédure totalement équitable.
Il y a cette phrase de François Molins que j'ai là sous les yeux qui dit que la politique pénale doit être faite pour être adaptée à certains types de délinquance. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
Mais évidemment, et François Molins, c'est dans son rôle quand il assène cette phrase, et il a raison de le dire, il faut, pour les personnes les plus dangereuses, appliquer la plus grande des sévérités. Et la justice antiterroriste est extrêmement sévère. Je ne veux pas qu'on tombe dans la caricature d'une justice antiterroriste laxiste. Nous, les avocats de la défense, nous savons à quel point elle est sévère. Maintenant, il faut aussi, parce que sinon, encore une fois, on va créer de la défiance, prendre en considération tous les profils et ne pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est dit un peu vulgairement, mais c'est quand même assez clair.
Vous semblez dire aussi dans votre livre qu'il y a eu et il y a moins une justice d'avant 2015 et d'après 2015. Donc ceux qui sont partis avant, qui ne pouvaient pas savoir, on y met des guillemets, on ne sait pas trop quelles étaient les intentions de cet État islamique. Et puis après 2015, il n'y a plus de doute puisqu'on est derrière les attentats. Est-ce qu'il y a eu un moment, une vraie séparation judiciaire entre ce parti avant, ce parti après? Est-ce que cette zone-là est en train d'être floutée ou pas?
Non, pas du tout. Il y a une vraie différence de traitement entre ceux qui sont partis après les attentats et ceux qui sont partis avant. Tout simplement parce que ceux qui sont partis après les attentats ne peuvent pas dire « Ah ben, on ne savait pas. On n'avait pas compris que Daesh, c'était ça. » Puisque, attendez, l'État islamique revendique les attentats. Donc là, effectivement, la justice antiterroriste est extrêmement dure avec eux. Ce que je dis, c'est que les attentats ont aussi contaminé le regard qu'on a pu avoir sur ceux qui sont partis avant. Et ça a été assez compliqué.
Alors, il y a des exemples à l'extérieur, vous parlez de l'Allemagne notamment dans votre livre, en disant que les choses se sont passées de manière nettement plus sereine. On va dire, je voudrais qu'on en discute un peu avec Ludovic Pétenu qui est avec nous à Berlin, parler des adultes évidemment, mais aussi des enfants, parce que les Allemands ont traité le cas des enfants différemment. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et tous.
Alors quand je dis que les situations sont différentes, il y a eu moins de départs chez vous, et sans vouloir minimiser, parce qu'il y a eu des attentats aussi, notamment à Berlin, les les ravages, on va dire, du terrorisme ont été moins violents, peut-être de votre côté que d'une autre. Mais qu'importe, je voudrais que vous nous disiez, est-ce qu'il y a un vrai débat de société autour de ces rapatriements chez vous, ou pas du tout, à la différence de nous ?
Même après une dizaine d'attentats ces quatre dernières années, Fabienne, c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que la société allemande a été agitée par ce débat. Ça a pu être un peu le cas il y a un an, ça n'a très vite plus été un sujet inquiétant ou discuté, disons, dans les médias ou par l'opinion publique ou bien dans la classe politique. Ça a même, et même avec une extrême droite plus forte qu'avant ces dernières années, est présente au Parlement depuis 2 ans et demi. Ça n'est plus un sujet donc, car il a suffi à tout le monde, à la façon allemande, de se concentrer sur les chiffres et de se dire qu'on ne parle là que d'un petit nombre. Sur les quelques 900 Allemands partis combattre sous le drapeau noir de l'organisation État islamique, 300 seraient rentrés, un tiers donc. Sur ces 300, il y en a 80 en prison en Allemagne, mais l'essentiel, environ 200, sont libres chez des proches, dans leur famille et sous extrême surveillance de la police.
Et ceux qui ont été condamnés, ont été condamnés à quel genre de peine ?
Alors, on a vu récemment, c'était au mois de décembre, une femme que le tribunal a considérée comme une combattante condamnée à 5 ans de prison. Elle est mère de 4 enfants. C'était le premier jugement prononcé contre un membre de l'organisation État islamique en Allemagne après plusieurs mois d'audience. D'autres procès vont suivre, en majorité concernant les hommes, des 80 qu'on a évoqués environ, qui sont en prison aujourd'hui.
Comment ça se passe pour le suivi ? Une dernière question, parce que là aussi, nous, pour les femmes et les enfants, c'est compliqué. On a bien compris que chez vous, il y avait effectivement une facilité. Comment ça se passe pour elles et leur suivi après ?
Ça, c'est très nouveau. C'est le retour des femmes. Effectivement, fin novembre, l'Allemagne a pour la première fois rapatrié une femme et ses 3 enfants depuis l'Irak après leur transfert depuis la Syrie. Elles rentrent, en général, elles sont chez des proches car elles sont à leur arrivée laissées libres par manque de preuves, selon la justice allemande. Mais les enquêtes sont toujours en cours et les choses peuvent donc évoluer à leur sujet. Cette même justice qui, quelques mois plus tôt, après des plaintes des familles, a un peu forcé la main des autorités allemandes au sujet des enfants. Ils seraient environ 70. Ces retours ont commencé au mois de mars l'an dernier. Ils sont considérés comme des victimes, c'est le mot qu'a employé il y a déjà bientôt un an le ministre allemand de l'Intérieur, qui n'est pourtant pas réputé être un tendre. Et quand ils rentrent, ils sont confiés à des proches qui sont d'accord pour les accueillir et avec le consentement d'un ou des deux parents. Pour la suite, le suivi, c'est les femmes en général qui reviennent dans leur famille comme les enfants. Elles sont suivies par une association mandatée par l'État qui effectue un travail qu'on appelle de déradicalisation. C'est un travail de suivi, d'accompagnement avec des psychologues, des travailleurs sociaux. Ce sont des programmes bien en place en Allemagne. Ils existent depuis 2009. Ils ont été renforcés en 2012 au moment des départs vers la Syrie et l'Irak de ces contingents d'Allemands qui constituent en nombre le deuxième groupe d'Occidentaux parmi les djihadistes.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Marie Dosé, comment est-ce que c'est l'historique ? Est-ce que c'est nos historiques respectifs autour des attentats qui font qu'il y a une différence aussi énorme entre un pays comme l'Allemagne et le nôtre ?
Ce qui est incroyable, mais vraiment, c'est que l'association de malfaiteurs à caractère terroriste n'existe pas en Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à les condamner ou qu'on les condamne à des peines aussi faibles. C'est-à-dire que nous, le simple fait de vouloir aller en Syrie, c'est minimum le quantum de la peine, 10 ans. En Allemagne, parce que le droit français prévoit l'association de malfaiteurs à caractère terroriste. En Allemagne, cette infraction n'existe pas. Et pourtant, ça n'est pas un sujet, comme le disait votre correspondant, mais comme nous le savons tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polémique comme en France. C'est-à-dire que les Allemands considèrent que s'ils doivent rentrer, ils doivent rentrer.
Mais donc, du coup, je répète ma question, c'est quoi, à votre avis ? C'est notre justice ? C'est l'historique des attentats qu'on a, nous, en France ? Comment se fait-il qu'à deux pays si proches, et au fond, qui ont des politiques assez similaires à bien des égards, pourquoi là, il y a cette grande différence-là ?
C'est peut-être la confiance en nos institutions, et puis un discours politique qui manque. Lorsque votre correspondant nous explique qu'un ministre qui a tout de même une réputation assez dure, assène que ces enfants sont des victimes, force est de constater que nous n'avons pas Emmanuel Macron ou M. Le Drian qui répètent que ces enfants sont des victimes alors qu'elles le sont. Peut-être aussi que c'est une façon de non pas d'éduquer, mais d'informer l'opinion publique qui est différente.
Nous, on fonctionne au cas par cas. Et le cas par cas donne des situations qui sont très injustes, effectivement, parce que les femmes qui ont pu rentrer, qui sont rentrées jusqu'en Turquie, puis qui ont été judiciarisées en France, ont leurs enfants pas loin ou avec elles pour certaines, enfin c'est compliqué. Il y a des enfants qui sont dans des camps en Syrie, et là il y a absolument quasiment aucune chance pour les voir sortir. Enfin tout ça est très différencié en fait. Comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas réussi à trouver et à dire aussi clairement que ça, les enfants peuvent rentrer ?
Parce que tout simplement notre gouvernement le refuse, et qu'Emmanuel Macron refuse le rapatriement des enfants. Le cas par cas, attention, hein, n'a concerné jusque-là qu'une poignée d'enfants isolés et orphelins.
Et orphelins.
D'accord, on est sur 17. Il y a 300 enfants en train de mourir dans ces camps. 300. Et je répète par rapport à ce que vous venez de dire, que les femmes qui rentrent en France avec leurs enfants ne sont pas rapatriées par la France.
Non, 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 non.
Elles ont réussi à fuir et à rejoindre la Turquie. Et là...
Et arrivées en Turquie...
Elles sont expulsées.
Elles sont expulsées, elles sont mises dans les mains ensuite des autorités françaises. Et d'ailleurs, très souvent, les enfants derrière, ils sont placés. Mais néanmoins, ils sont là. Est-ce qu'il faudrait, je vais vous poser la question comme ça, est-ce qu'il faudrait arracher les enfants à leur mère, ceux qui sont encore dans les camps, et se dire, on laisse les mères, on fait partir les enfants. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un entre-deux?
L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quoi? Est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'aller à l'école tous les matins, en imaginant sa mère dans une tente, là où il était lui-même, en sachant pertinemment qu'elle est en train de mourir, qu'elle a faim, qu'elle a froid, comme lui, a eu faim, a eu froid avec elle? Comment voulez-vous qu'un enfant, dont le père est mort sous les bombes de la coalition internationale, avec dans sa tête cette mère qui n'a été que sa seule lumière pendant des mois et des années, avec dans sa tête cette mère en train de mourir, puisse à un moment donné adhérer aux valeurs républicaines de la France? L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il rentre avec sa mère, cette mère qui ne demande qu'à une seule chose, c'est d'aller en prison en France.
Alors pas toutes, mais un certain nombre.
Mais en tout cas, rien que dans mon cabinet, il y a 40 femmes et une centaine d'enfants à sauver. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par ça? Est-ce qu'on ne peut pas commencer par ça? Et puis je vais vous dire une chose, je vais aller plus loin.
Allez-y.
Les plus dangereuses, celles qui veulent pas rentrer et qui veulent justement faire de leurs enfants des enfants soldats pour mieux qu'on les retrouve dans quelques années place de la République. C'est peut-être celles-là qu'il faut rapatrier en premier. Et c'est peut-être celles-là, effectivement, qu'il faut emprisonner en France parce que la dispersion, elle est dans quelques jours. L'État islamique les attend.
Une dernière question, Marie-Dosée, parce qu'il y a un cas qui est assez édifiant dans votre livre, c'est celui d'Ismaël et Maïa. Mmh. Ce sont deux très jeunes adultes qui ont été emmenés par leurs parents lorsqu'ils étaient mineurs, donc envoyés évidemment involontairement. Qu'est-ce qui se passe avec un Ismaël ou une Maïa? Qu'est-ce qui se passe pour ces nouveaux adultes?
Voilà ce qu'est la justice antiterroriste en France. Quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, après que les trois quarts de leur famille sur zone décèdent, et ils ont donc fui Daesh, ensemble, tous les deux. Elle était encore mineure et lui est tout jeune majeur. Ils sont arrivés en France avec leur bébé. Ils sont incarcérés depuis des mois. Même si ils n'ont pas eu le choix d'aller en Syrie, ce sont la mère de Maïa qui l'a emmenée quand elle avait 12 ans, le père de son amoureux qui l'a emmenée quand il avait 15 ans, même s'ils n'ont pas eu le choix d'aller en Syrie et d'y rester, eh bien, la justice antiterroriste persiste à les laisser en détention provisoire. C'est vrai que ce cas illustre parfaitement combien la justice antiterroriste en France, parfois, peut être violente.
Est-ce que les lignes vont un peu bouger, puisque Nicole Belloubet semble avoir fait un petit demi-tour en disant de toute façon, oui, on ne peut pas laisser les hommes en Irak, donc de toute façon, le reste suivra. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez cet optimisme-là ou pas?
Nicole Belloubet dit strictement la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire qu'en janvier 2019, elle expliquait qu'il fallait rapatrier tout le monde parce qu'on allait tout droit vers la dispersion et qu'on allait créer du terrorisme là-bas. Édouard Philippe a dit la même chose. Monsieur Castaner, en expliquant qu'ils étaient d'abord français avant d'être djihadistes, a dit la même chose. Sauf que on n'a pas le courage politique d'aller jusqu'au bout de ce qui doit être fait pour des raisons humanitaires et sécuritaires.
Marie-Dosée, ça s'appelle « Les victoires de Daesh ». C'est publié chez Plon, chacun sera une idée. Et je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci à vous.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.